c'est qu'au Moyen-Âge, on est, pour le dire vite, dans une vision de l'homme et du monde holistique. C'est-à-dire que c'est une totalité. Chaque homme n'est qu'une créature qui appartient à tout, qui est la création dirigée par le Créateur. La notion d'individu et de moi individuel n'existe pas au Moyen-Âge et elle n'existe pas plus, du coup, chez Thomas d'Aquin, qui est quand même un homme du Moyen-Âge. Alors que Rousseau vient après l'avènement des temps modernes et l'invention de l'individu. Donc, c'est à la fois une continuité, mais en même temps, il n'est plus sur le même plan tout à fait. Voilà. Cette même étude de l'homme originel, de ses vrais besoins et des principes fondamentaux de ses devoirs, est encore le seul bon moyen qu'on puisse employer pour lever ces foules de difficultés qui se présentent sur l'origine de l'inégalité morale, sur les vrais fondements du corps politique, sur les droits réciproques de ses membres et sur les mille autres questions semblables, aussi importantes que mal éclaircies. Bon, je n'insiste pas là-dessus, on voit bien que c'est une question de méthode qu'il pose là. Et que l'homme naturel, l'homme sauvage, c'est un postulat méthodologique. En considérant la société humaine d'un regard tranquille et désintéressé, elle ne semble montrer d'abord que la violence des hommes puissants et l'oppression des faibles. Ben, là, c'est le constat dont part Thomas Hobbes, quelque temps avant, et que Rousseau critique. Thomas Hobbes ne sort pas de ce constat d'apparence, l'homme est un loup pour l'autre. Mais Rousseau remet en cause le fait qu'il faille partir de là pour fonder une morale et fonder la société. L'esprit se révolte contre la dureté des uns, ou est porté à déplorer l'aveuglement des autres. Et comme rien n'est moins stable parmi les hommes que ces relations extérieures que le hasard produit plus souvent que la sagesse, et que l'on appelle faiblesse ou puissance, richesse ou pauvreté, les établissements humains paraissent, en premier coup d'œil, les établissements humains, c'est les institutions humaines, l'organisation sociale, au premier coup d'œil, fondés sur des mensonges de sable mouvant. C'est-à-dire, c'est la fragilité, ce que pointe Rousseau, la fragilité et le côté fluctuant, mouvant des relations humaines organisées. Ce n'est qu'en les examinant de près, ce n'est qu'après avoir écarté la poussière et le sable qui environnent l'édifice, qu'on aperçoit la base inébranlable sur laquelle il est élevé et qu'on apprend à en respecter les fondements. La méthode qu'il utilise, c'est exactement la même méthode que deux siècles plus tard, Michel Foucault, ce grand philosophe contemporain qui nous inspire, a utilisé. Foucault, il utilisait un terme, c'est l'archéologie. L'archéologie, c'était la méthode archéologique. C'est-à-dire qu'on creuse les strates successives pour aller au fondement. C'est la même méthode. Rousseau invente l'archéologie comme méthode que... Michel Foucault, deux siècles plus tard, aura développé quoi. Oui, mais Freud ne se situe pas trop du point de vue de collectif plus au niveau de... Bon, il s'intéresse au collectif sur d'autres choses, mais ce n'est pas son plan. Mais on peut dire aussi que Rousseau est un précurseur de la psychanalyse. Clairement, c'est une thèse qu'on peut parfaitement défendre. Or, sans l'étude sérieuse de l'homme, de ses facultés naturelles et de leur développement successif, on ne viendra jamais à bout de faire ces distinctions et de séparer dans l'actuelle constitution des choses ce qu'a fait, il y avait une faute dans ce que j'ai recopié, ce qu'a fait la volonté divine d'avec ce que l'art humain a prétendu faire. La volonté divine, Rousseau reste pas détaché, je dirais, de la religion, hein. C'est pas un athée. Mais comme Voltaire n'était pas un athée quand Voltaire parlait du grand architecte, Rousseau comme Voltaire se dégage de la religion en tant que la religion inspire, prétend inspirer les lois morales, sociales et politiques. D'accord ? Mais en tant que tel, l'un comme l'autre n'exclut pas l'idée qu'il y a un principe premier qui est en l'occurrence la volonté divine, là, telle qu'il l'a définie, et un principe premier qui fonde l'être naturel, l'homme naturel, d'accord ? Les recherches politiques et morales auxquelles donne lieu l'importante question que j'examine sont donc utiles de toute manière, et l'histoire hypothétique des gouvernements est pour l'homme une leçon instructive à tous égards. En considérant ce que nous serions devenus abandonnés à nous-mêmes, nous devons apprendre à bénir celui dont la main bienfaisante, corrigeant nos institutions et leur donnant une assiette inébranlable, a prévu les désordres qui devraient en résulter et fait naître notre bonheur des moyens qui semblaient devoir troubler notre misère. Suivre une citation latine d'un poète latin, perse, que je donne uniquement en traduction, « Ce que la divinité a ordonné que tu sois, et quelle est ta place dans le monde des hommes, apprends-le. » En gros, là, c'est la même chose que ce que dit Voltaire, c'est-à-dire que il y a un principe premier qui fait que les choses humaines, les choses du monde sont organisées selon un ordre harmonieux au départ. Voilà. Et c'est l'homme, dans ses organisations sociales corrompues, dira Rousseau, qui va faire que c'est cette corruption qui naît de l'histoire des sociétés qui va faire que cet ordre naturel va être gâté. Au sens d'abîmer. Et ce que dit Rousseau, c'est qu'il faut retrouver ce qu'était ce fondement, ce noyau de l'homme premier. Alors ensuite, ça c'était la préface, on termine, et commence donc le discours proprement dit. Commençons par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels. Donc je reviens toujours sur la même chose, c'est une méthodologie plus propre à éclaircir la nature des choses qu'à en montrer la véritable origine, et semblable à ceux qui font tous les jours nos physiciens, que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde. Voilà. C'est exactement la méthode, c'est une méthode scientifique, la même méthode que les astrophysiciens, par exemple, en viennent à parler du Big Bang initial. Le Big Bang, on ne l'a pas établi empiriquement. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas observé. Mais par contre, c'est une hypothèse nécessaire. Et donc, l'homme naturel, ce n'est pas un bon sauvage dont on affirmerait que concrètement il a existé comme tel, c'est comme le Big Bang, c'est le postulat de départ pour la démarche scientifique et suite. Et là, on ne peut pas être plus clair, parce que là, il fait bien le parallèle entre la science physique et son approche anthropologique et philosophique. Donc ça devrait lever tous toutes les mauvaises interprétations, les malentendus sur Rousseau, mais trop de gens n'ont pas lu ça minutieusement. C'est bien le problème en général. La plupart des essayistes ne lisent pas ce qu'ils prétendent raconter. La religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même ayant tiré les hommes de l'état de nature immédiatement après la création, ils sont inégaux parce qu'ils ont voulu qu'ils le fussent. Mais elle ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la seule nature de l'homme et des êtres qui l'environnent sur ce qu'aurait pu devenir le genre humain s'il fût resté abandonné à lui-même. Voilà ce qu'on me demande et ce que je me propose d'examiner dans ce discours. Donc, je ne vous ai pas mis tout le discours, parce que ça reviendrait à étudier le livre entier, ce serait un peu long. Donc là, il y a des ruptures. Je n'ai considéré jusqu'ici que l'homme physique. Tâchons de le regarder maintenant par le côté métaphysique et moral. Toutes les pages qui précèdent, Rousseau s'intéresse à l'homme dans son corps physique, c'est-à-dire la force, la faiblesse, les maladies, etc. Et donc là, comme je n'ai fait qu'une sélection du point de vue de la question qui nous intéresse, c'est-à-dire la question morale, je n'ai pas pris en compte toute cette analyse de l'homme physique du corps. Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir jusqu'à un certain point de tout ce qui tend à la détruire ou à la déranger. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. Voilà, c'est toute la différence entre l'homme et l'animal. Rousseau introduit le principe de liberté dans ce qui va orienter les hommes. Et le principe de la liberté, rappelez-vous, on l'avait déjà abordé, c'est la condition sine qua non de la morale. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de morale. Parce que la liberté, c'est ce qui est la condition qui permet, dans ces conduites humaines, de choisir d'agir selon le principe du bien, selon le principe du mal. Et donc ça, c'est la liberté. L'homme concourt au ciel en qualité d'agent libre. L'une choisit ou rejette par instinct, ça c'est l'animal, et l'autre par un acte de liberté. Ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il serait avantageux, quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice.
Donc, si je comprends bien, dénier à l'animal une forme d'intelligence.
De liberté.
Oui, mais il agit par instinct.
Oui.
Ben oui. L'intelligence, elle est où là-dedans?
L'intelligence. Ça dépend ce qu'on entend par intelligence. Si l'intelligence, on l'entend comme l'exercice de la raison, mais l'intelligence, ce n'est pas que la raison. Clairement, l'animal n'agit pas de façon rationnelle. Par contre, si on entend que dans intelligence, il y a autre chose, il y a une conduite qui peut venir de l'apprentissage de quelques règles, de quelques situations, on peut dire que l'animal a une forme d'intelligence, mais ce n'est pas ce que dit Rousseau. Là, Rousseau, clairement, il dit simplement, il oppose l'instinct, en l'occurrence, et la rationalité. C'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes, et un chat sur des tas de fruits ou de grains, quoique l'un et l'autre pût très bien se nourrir de l'aliment qu'il désdaigne, s'il était avisé d'en essayer. C'est qu'en gros, ce qu'il explique, et ça, c'est indubitable, c'est que l'homme, par exemple, l'homme est habitué à manger de la viande. Il se trouve qu'il est dans une situation où il n'y a plus du tout de viande. L'homme ne va pas se laisser mourir de faim parce qu'il ne va pas manger de viande. Il va manger ce qu'il va trouver. Alors que ce que dit Rousseau, c'est que l'animal, de ce point de vue-là, est déterminé dans son être. Un animal herbivore ne va pas quitter de la viande. Et s'il n'y a plus du tout d'herbe, il va crever de faim. C'est ce que connaissent bien les bergers. On en parlait avec Florence, la bergère. Elle connaît parfaitement le sujet. Par exemple, ces brebis mourraient de faim au moment où l'été arrive, dans la guérigue, parce que dans la guérigue, quand l'été arrive, il n'y a plus d'herbe. Et il n'y a plus d'herbe que mange la brebis. Et donc, elle mourrait de faim sur place. Et la seule solution, c'est ce qui explique les styles, c'est que son troupeau, elle doit l'emmener dans les Pyrénées, les sommets des Pyrénées, parce que là, à 2000 mètres, entre 1500 et 2000, 2002, eh bien, il y a encore de l'herbe. Et donc, toutes les brebis vont survivre par l'herbe des estives. Parce que si on les laissait, la brebis ne serait pas nourrie d'autre chose. À l'inverse, un animal carnivore, son être est d'être carnivore, s'il n'a plus de quoi manger de la viande, des autres animaux qu'il va chasser comme prédateur, eh bien, mais s'il y a plein d'herbe, eh bien, il va se laisser mourir de faim parce qu'il ne va pas manger l'herbe. Vous voyez, les exemples sont très éclairants sur la différence entre la bête et l'homme de ce point de vue-là. Ce n'est pas que l'adaptabilité. L'animal peut s'adapter dans une moindre mesure, mais qui reste conforme et aux déterminations de son être. Alors que l'homme, il peut complètement changer de mode de vie, de point de vue, de mode alimentaire, complètement changer alors qu'il n'y était pas du tout prédestiné. Et ce que dit Rousseau, ce n'est pas toujours à l'avantage de l'homme, ça peut être à son préjudice. Par exemple, la destruction de l'environnement aujourd'hui, qui est une question qui agite beaucoup notre monde contemporain, c'est l'illustration de ce que dit Rousseau, c'est que l'homme, librement, a choisi des options de vie, d'organisation de vie, qui aboutissent à se retourner contre lui-même. Ben, l'exemple type, c'est la pollution, par exemple. Voilà. Ainsi que les hommes dissolus se livrent à des excès qui leur causent la fièvre et la mort, parce que l'esprit déprave les sens et que la volonté part encore quand la nature se tait. Bon, on ne peut pas être plus clair. Tout animal a des idées puisqu'il a des sens. Ça, c'est une façon de répondre à la question de l'intelligence. Il combine même ses idées jusqu'à un certain point. Et l'homme ne diffère pas à cet égard, et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus et du moins. Quelques philosophes ont même avancé qu'il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à telle bête. Ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme que cette qualité d'agent libre. Voilà, ça répond à la question de l'intelligence. L'entendement, c'est une forme d'intelligence. Donc Rousseau admet tout à fait que l'animal a une forme d'entendement, c'est-à-dire d'intelligence. Mais il n'a pas de liberté. C'est ce qui permet aussi de dire que l'animal est un être parfait alors que l'homme est un être imparfait. L'animal est un être parfait au sens où son être est parfaitement, et ses qualités sont parfaitement déterminées par sa nature et ce qu'il a à faire. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme est infini. L'animal est complètement fini. Il faut l'entendre dans tous les sens du terme. L'homme est infini, il faut l'entendre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il n'est pas fini. La nature commande à tout animal, et la bête lui obéit. L'homme éprouve la même impression, mais s'il se reconnaît libre d'agresser ou de résister. Et c'est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme. Ça, c'est essentiel. Car la physique explique en quelque manière le mécanisme des sens et la formation des idées, mais dans la puissance de vouloir, ou plutôt de choisir, et dans le sentiment de cette puissance, on ne trouve que des actes purement spirituels dont on n'explique rien par les lois de la mécanique. D'accord ? Je ne vais pas commenter plus. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelque lieu de disputer cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. Et ça, c'est une différence qui est très importante, auquel on ne pense pas souvent et que Rousseau la pointe de façon très intéressante. C'est la faculté de se perfectionner. La perfectibilité est propre de l'homme et non pas de l'animal. C'est la faculté de se perfectionner, faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu. Au lieu qu'un animal est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie. Et son espèce au bout de 1000 ans, ce qu'elle est la première année de ces 1000 ans. On le voit bien, quelqu'un qui vit avec les animaux se rend compte qu'un animal passe très vite de l'état de bébé, même physiquement, à l'état d'adulte. Alors que l'homme, il lui faut presque 20 ans. Et cette différence d'échelle temporelle illustre ce que veut dire Rousseau. Et c'est même 40, c'est jusqu'à la mort, l'homme peut se perfectionner Alors, entendez bien ce que Rousseau dit par perfectionnement, hélas, du fait de la corruption sociale, c'est pas forcément une amélioration positive, ça peut être vers le mal. Hein. Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile? Voilà, maintenant. N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif et que tandis que la bête qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l'homme reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir. Et la perfectibilité, vous l'avez en italique, c'est Rousseau qui l'avait en italique. C'est dire que pour Rousseau, c'est un terme essentiel. Retombe ainsi plus bas que la bête elle-même. Ben, couramment, on le dit autrement. Couramment, on le dit, le vieux retombe en enfance. Quoi. C'est un état antérieur, quoi, qui est le plus proche de l'état naturel, disons. Il serait triste pour nous d'être forcés de convenir que cette faculté distinctive est presque illimitée et la source de tous les malheurs de l'homme. Que c'est elle qui le tire à force de temps de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents, que c'est elle qui, faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même et de la nature. Alors ensuite, là, le passage, c'est une note. Dans ce texte, il y a plein de longues notes de Rousseau lui-même. Et donc là, c'est une note qui précise certaines choses par rapport à notre questionnement. Un auteur célèbre, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui est un auteur d'un essai de philosophie morale et d'une relation de voyage au frein de la Laponie. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est complètement inconnu, mais qui du temps de Rousseau était quelqu'un d'important. Donc un auteur célèbre, calculant les biens et les maux de la vie humaine et comparant les deux sommes, a trouvé que la dernière surpassait l'autre de beaucoup. Et qu'à tout prendre, la vie était pour l'homme un assez mauvais présent. Je ne suis pas surpris de cette conclusion. Il a tiré tous ses raisonnements de la constitution de l'homme civil, c'est-à-dire de l'homme historique organisé en société. S'il fut remonté jusqu'à l'homme naturel, donc s'il avait enlevé toutes les couches, toutes les strates, pour revenir au noyau fondamental, à l'ontologie de l'homme, donc s'il fut remonté jusqu'à l'homme naturel, on peut juger qu'il eût trouvé des résultats très différents, qu'il eût aperçu que l'homme n'a guère de maux que ceux qu'il s'est donné lui-même, et que la nature eût été justifiée. Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenus à nous rendre si malheureux. Et donc là, c'est implicitement une critique à nouveau de Thomas Hobbes, qui part du constat que l'homme est à nous pour l'homme. Ce que dit Rousseau, Hobbes se trompe de fonder la société à partir de ce constat, parce que ce constat n'est pas l'essence même de l'homme. D'accord ? Quand d'un côté l'on considère les immenses travaux des hommes, tant de sciences approfondies, d'art inventé, tant de forces employées, des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de vaisseaux et de matelots, et que de l'autre, on recherche avec un peu de méditation les vrais avantages qui en résultait de tout cela pour le bonheur de l'espèce humaine, on ne peut qu'être frappé de l'étonnante disproportion qui règne entre ces choses et déplorer l'aveuglement de l'homme qui, pour nourrir son fol orgueil, l'hubris des Grecs, la démesure, et je ne sais quelle vaine admiration de lui-même le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible, et que la bienfaisante nature avait pris soin d'écarter de lui. Juste une seule remarque, C'est un style magnifique. C'est magnifique. Littérairement, c'est très très bon. Et là, là aussi, prémonition, je veux dire, de Rousseau, ce qu'il dit là est exactement ce qu'est le discours aujourd'hui par rapport aux dégâts du progrès, à la pollution, à la destruction de l'environnement. C'est exactement ce que Rousseau a dit 2 siècles avant. Les hommes sont méchants, une triste et continuelle expérience dispense de la preuve. Cependant, l'homme est naturellement bon. On voit implicitement toujours sa discussion avec Hobbes. Je crois l'avoir démontré. Qu'est-ce que donc qui peut l'avoir dépravé à ce point, sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu'il a faits et les connaissances qu'il a acquises? Vous savez que l'homme change par la société, par des siècles d'histoire, mais l'homme change, on le sait très précisément, mais physiquement. Vous savez qu'aujourd'hui, de par l'évolution des modes de vie, etc., les hommes sont beaucoup plus grands qu'avant. Donc même le corps physique, même l'homme physique change aujourd'hui. Il y a une évolution corporelle. Oui, voilà. Alors après, il y a aussi d'autres raisons là, qu'on pointe aujourd'hui chez les plus jeunes générations, c'est l'effet des perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup. Voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a un effet des perturbateurs endocriniens qui tend à produire des êtres androgynes. Vous savez que les médecins obstétriciens font un constat qu'il y a de plus en plus de bébés à la naissance qui ont un genre indéterminé. Et ils établissent une corrélation avec les perturbateurs endocriniens, qui sont aussi bien les pesticides que aussi tous les produits qui polluent l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'entre parenthèses, il faut toujours prendre soin d'aérer régulièrement. Oui, parce que les peintures au mur, les produits dans le regard, les moquettes, les textiles des fauteuils diffusent des microparticules qui sont ces perturbateurs endocriniens. Bref. Qu'est-ce qui peut l'avoir dépravé à ce point, sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu'il a faits, les connaissances qu'il a acquises? Qu'on admire tant qu'on voudra la société humaine, il ne sera pas moins vrai qu'elle porte nécessairement les hommes à s'enhaïr à proportion que leurs intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparents et se faire, en effet, les maux tous les mots inimaginables. Alors là, c'est clairement là qu'on voit comment Rousseau est un lecteur de Pascal. On retrouve presque, si vous vous souvenez ce qu'on a lu de Pascal, on retrouve presque les mêmes phrases. C'est complètement pascalien, là, ce que dit. Ce théâtre social où l'on fait semblant de s'aimer, où l'on fait semblant d'être gentil avec
l'autre. On voit aussi la paranoïa annoncée par certains de Rousseau dans ce
Oui, mais alors on peut la dire de Pascal aussi, de ce point de vue-là.
Oui,
non, moi je dirais que c'est une extrême lucidité, qui est incroyable, quoi. Que peut-on penser d'un commerce où la raison de chaque particulier lui dicte des maximes directement contraires à celles que la raison publique prêche au corps de la société, où chacun trouve son compte dans le malheur d'autrui? C'est l'exemple très concret, c'est tous ceux qui vont tenter de faire du fric en vendant des produits dont ils savent que c'est des produits de malfaçon, des produits nuisibles, etc. Pourquoi l'industrie pharmaceutique a vendu autant de médiateurs en sachant que le médiateur était un médicament qui pouvait faire des morts, alors qu'ils savaient parfaitement qu'il y avait cet effet mortel du médiator, et ainsi de suite. Parce que l'intérêt, en l'occurrence économique, il n'y a peut-être pas un homme aisé à qui des héritiers avides, et souvent ses propres enfants, ne souhaitent pas la mort en secret. Alors ça, c'est la scène banale. La scène banale des discussions, des familles qui se déchirent à mort au moment d'une succession.
Oui.
Pas un vaisseau en mer dont le naufrage ne fut une bonne nouvelle pour quelques négociants. Du temps de Rousseau, il y a déjà les assurances qui jouent. Pas un peuple qui ne se réjouisse des désastres de ses voisins. Ben regardez, oui, j'ai sauté quelque chose là. Non, pas une maison qu'un débiteur de mauvaise foi ne voulut voir brûler avec tous les papiers qu'il contient. C'est ainsi que nous trouvons notre avantage dans le préjudice de nos semblables et que la perte de l'un fait presque toujours la prospérité de l'autre. Ben regardez aujourd'hui un modèle que l'économie moderne met en avant comme un modèle positif, ce qu'on appelle le killer. Celui qui réussit parce qu'il est killer. Killer, c'est le tueur, qui est un modèle positif dans l'économie contemporaine. Celui qui va tuer l'autre pour réussir. Mais dans les entreprises, c'est d'une banalité crasse. Quand il y a de la concurrence entre les cadres pour avoir une promotion, chacun n'hésite pas à tenter de tuer son collègue pour avoir la place. C'est ce que certains ont appelé un sociologue intéressant qui s'appelle son prénom de Godemar, qui a écrit ce livre qui est « La lutte des places ». On est aujourd'hui dans la lutte des places. Mais ce qu'il y a de plus dangereux encore, c'est que les calamités publiques font l'attente et l'espoir des multitudes de particuliers. Les uns veulent des maladies, d'autres la mortalité, d'autres la guerre, d'autres la famine. J'ai vu des hommes affreux pleurer de douleur aux apparences d'une année fertile. Et le grand et funeste incendie de Londres qui coûta la vie et les biens à tant de malheureux fit peut-être la fortune à plus de 10 000 personnes. Je sais que Montaigne, alors c'est dans les essais, blâme l'Athénien Démades qui, d'avoir fait punir un ouvrier qui, vendant fort cher des cercueils, gagnait beaucoup à la mort des citoyens. Mais la raison que Montaigne allègue étant qu'il faudrait punir tout le monde, il est évident qu'elle confirme la mienne. Qu'on pénètre donc au travers de nos frivoles démonstrations de bienveillance, ce qui passe au fond des cœurs et qu'on recherche à ce que doit être un état de choses où tous les hommes sont forcés de se caresser et de se détruire mutuellement, où ils naissent ennemis par devoir et fourbes par intérêt. Bon, je commence pas plus. Là, on retrouve directement tout ce qu'a dit Pascal. C'est que la société, c'est un jeu de miroirs et de masques. Si l'on me répond que la société est tellement constituée que chaque homme gagne à servir les autres, je répliquerai que cela serait fort bien s'il ne gagnait encore plus à leur nuire. Il n'y a point de profit si légitime qui ne soit surpassé par celui qu'on peut faire illégitimement. Et le tort fait au prochain est toujours plus lucratif que les services. Il ne s'agit donc plus que de trouver les moyens de s'assurer l'impunité, c'est à quoi les puissants emploient toutes leurs forces et les faibles toutes leurs ruses. Bah, je ne donnerai qu'un exemple d'actualité, le procès des Balkaniers. L'homme sauvage, quand il a dîné, est en paix avec toute la nature, et l'homme, tous ses semblables. J'ai beaucoup réfléchi. Et l'amide, tous ses semblables. J'ai eu un temps de ma vie à beaucoup réfléchir sur les possibilités de la coopération quand j'étais à l'IP. Vous savez, le conflit ouvrier, j'ai beaucoup accompagné les livres pour créer des coopératives. Donc les coopératives qui postulent un autre mode de relation au travail entre les hommes, fondé sur la coopération, c'est-à-dire non pas nuire à l'autre, non pas être killer, mais l'entraide mutuelle, la coopération positive. J'ai beaucoup réfléchi à ça et je suis arrivé empiriquement à des conclusions assez pessimistes qui, hélas, rejoignent Rousseau. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi Les coopératives de livres ont échoué à un moment donné. C'est une expérience assez remarquable et qui a été un échec au final. Et pourquoi les sociétés coopératives ne se développent-elles pas plus ? Alors, les SCOP, alors que ça existe depuis 2 siècles. Non, pas tout à fait, hein. 1 siècle et demi. Pourquoi ? J'ai beaucoup réfléchi à ça, et les seules réponses qu'on peut tirer à la fois théoriquement, méthodologiquement, mais aussi empiriquement, en observant ce qui se passe, eh ben c'est ce que dit Rousseau. C'est ce que dit Rousseau. Et Pascal. Là, Rousseau admet complètement ce que tu dis, mais ce qu'il dit là, c'est le jeu des intérêts qu'on amène plus à vouloir activement.
Mais en même temps, c'est ce qui fait que pour lutter contre cette pente, il y a quand même toujours une volonté de coopération.
Une volonté de coopération. Oui, mais ça va correspondre à l'instinct, parce qu'il reste, même si l'homme est corrompu dans son essence, il reste quand même, on va y venir, un peu d'instinct de pitié. Donc l'amour d'autrui n'a pas complètement disparu. Il est recouvert de toutes ses strates, mais recouvrir ne veut pas dire supprimer. Mais chez l'homme en société, ce sont bien d'autres affaires. Il s'agit premièrement de pouvoir au nécessaire, puis au superflu. Ensuite viennent les délices, puis les immenses richesses, et puis des sujets, et puis des esclaves. Il n'y a pas un moment de relâche. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que moins les besoins sont naturels et pressants, plus les passions augmentent. C'est en gros ce que dit Rousseau, c'est que c'est le désir qui s'est substitué aux besoins. Et on le voit bien aujourd'hui, qu'est-ce qui est le moteur de la société de consommation ? C'est le désir, c'est plus le besoin. Et ce que Rousseau appelle passion, c'est, ça correspond au désir. Et Tipi est le pouvoir de les satisfaire, de sorte qu'après de longues prospérités, après avoir englouti bien des trésors et désolé bien des hommes, mon héros finira par tout égorger jusqu'à ce qu'il soit l'unique maître de l'univers. Tel est en abrégé le tableau moral, sinon de la vie humaine, au moins des prétentions secrètes du cœur de tout homme civilisé. J'avance parce que je vois qu'on aura du mal à finir. Comparer sans préjugé l'état de l'homme civil avec celui de l'homme sauvage. Et recherchez, si vous le pouvez, combien outre sa méchanceté, ses besoins et ses misères, le premier a ouvert de nouvelles portes à la douleur et à la mort. Si vous considérez les peines d'esprit qui nous consument, les passions violentes qui nous épuisent et nous désolent, les travaux excessifs dont les pauvres sont surchargés, la mollesse encore plus dangereuse à laquelle les riches s'abandonnent et qui font mourir les uns de leurs besoins, les autres de leurs excès. Si vous songez, ben regardez, juste un exemple contemporain, la plaie de l'obésité généralisée dans le monde occidental, un petit exemple. Si vous songez au monstrueux mélange des aliments, à leurs pernicieux assaisonnements, aux denrées corrompues, aux drogues falsifiées, aux friponneries de ceux qui les vendent, aux erreurs de ceux qui les administrent, au poison des vaisseaux dans lesquels on... au poison, c'est des vaisseaux dans lesquels on les prépare. Si vous faites attention aux maladies épidémiques engendrées par le mauvais air, parmi des multitudes d'hommes rassemblés, à celles qu'occasionne la délicatesse de notre manière de vivre, le passage alternatif de nos maisons aux grandes terres, l'usage des habillements pris ou quittés avec trop peu de précaution, et tous les soins que notre sensibilité excessive a tournés en habitudes nécessaires, et dont la négligence ou la privation nous coûte ensuite la vie ou la santé. Si vous mettez en ligne de compte les incendies et les tremblements de terre qui, consumant, renversant des villes entières, en font périr les habitants par milliers, en un mot, si vous réussissez les dangers que toutes ces causes assemblent continuellement sur nos têtes, vous sentirez combien la nature nous fait payer cher le mépris que nous avons fait de ces leçons. Je ne commente pas plus, hormis là toujours le style magnifique de Rousseau. de la société et du luxe qu'elle engendre, naissent les arts libéraux. Alors, les arts libéraux, c'est une vieille expression qui date du Moyen-Âge. C'est les arts qui ne sont pas soumis à un objectif de morale et de religion. C'est les artes libérales, comme on disait au Moyen-Âge en latin. C'est la peinture, la musique, l'architecture, c'est les beaux-arts, la littérature. De la société et du luxe qu'elle engendre naissent les arts libéraux et mécaniques, le commerce, les lettres et toutes ces inutilités qui font fleurir l'industrie, enrichir et perdre les États. La raison de ce dépérissement est très simple. Il est aisé de voir que, par sa nature, l'agriculture doit être le moins lucratif de tous les arts. Parce que son produit étant de l'usage le plus indispensable pour tous les hommes, le prix doit en être proportionné aux facultés des plus pauvres. Ça aussi, c'est une actualité déterminante, quoi. La question du prix des produits agricoles. Et aujourd'hui, le système est complètement corrompu, ce qui fait que les gens ne peuvent pas accéder, les plus pauvres ne peuvent pas accéder, parce qu'il y a plein d'intermédiaires qui font que le paysan ne vend pas au juste prix et que le consommateur n'achète pas au juste prix. De même, du même principe, on peut tirer cette règle qu'en général, les arts sont lucratifs en raison inverse de leur utilité, et qu'elle est plus nécessaire, voire enfin devenir les plus négligées. Mais c'est toute la question de l'industrie du luxe, par exemple. Par où l'on voit ce qu'il faut penser des vrais avantages de l'industrie et de l'effet réel qui résulte de ses progrès. C'est pour ça que l'industrie de luxe aujourd'hui, c'est ce qui se porte le mieux. Regardez monsieur Pinault, c'est lui, hein. Je confonds Arnaud et Pinault toujours, mais je crois que c'est Pinault qui a retenu là Trump, et Trump qui a dit qu'il était le meilleur ami de Pinault, et qui a fait qu'ils sont amis. C'est ce qui fait que Trump n'a pas introduit une surtaxe de 25% à tous les produits de luxe français. Telles sont les causes sensibles de toutes les misères où l'opulence précipite enfin les nations les plus admirées. À mesure que l'industrie et les arts s'étendent et fleurissent, le cultivateur méprisé, chargé d'impôts nécessaires à l'entretien du luxe, est condamné à passer sa vie entre le travail et la faim, abandonne ses champs pour aller chercher dans les villes le pain qu'il devrait y porter. C'est tellement juste. Plus les capitales frappent d'admiration les yeux stupides du peuple, plus il faudrait gémir de voir les campagnes abandonnées, les terres en friche et les grands chemins inondés de malheureux citoyens devenus mendiants ou voleurs et destinés à finir un jour leur misère sur la roue ou sur un fumier. Et là, il anticipe, il analyse parfaitement le drame du XIXe siècle avec l'exode rural et la paupérisation des classes laborieuses, qui sont les anciennes classes rurales. Et il anticipe ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux paysans aujourd'hui. C'est ainsi que l'État, s'enrichissant d'un côté, s'affaiblit et se dépeuple de l'autre, et que les plus puissantes monarchies, après bien des travaux pour se rendre opulentes et désertes, finissent par devenir la proie des nations pauvres, qui succombent à la funeste tentation de les envahir, et qui s'enrichissent et s'affaiblissent à leur tour, jusqu'à ce qu'elles soient elles-mêmes envahies et détruites par d'autres. Juste un simple commentaire, Rousseau l'a anticipe complètement, de façon là aussi magnifique, toute l'œuvre de Hegel, le philosophe allemand, Hegel, qui va développer sa fameuse dialectique du maître et de l'esclave. C'est exactement l'anticipation de la dialectique du maître et de l'esclave. J'ai bien peur que quelqu'un ne s'avise à la fin de nos réponses que toutes ces grandes choses, savoir l'État, les arts, les sciences, les lois, ont été très sagement inventés par les hommes comme une peste salutaire, pour prévenir l'excessive multiplication de l'espèce, de peur que ce monde qui nous est destiné ne devint à la fin trop petit pour ses habitants. Alors ça, c'est le grand problème d'aujourd'hui qui est assez inquiétant, mais je ne développe absolument pas, qui est de dire on est trop nombreux sur tout. Quoi donc ? Faut-il détruire les sociétés contre lesquelles Rousseau s'insurge déjà, hein ? Faut-il détruire les sociétés anéantir le tien et le mien et retourner vivre dans les forêts avec les ours ? Conséquence à la manière de mes adversaires que j'aime autant prévenir que de leur laisser la honte de la terre. Ô vous à qui la voix céleste ne s'est point faite entendre et qui ne reconnaissez pour votre espèce d'autre destination que d'achever en paix cette courte vie, vous qui n'y pouvez laisser au milieu des villes vos funestes acquisitions, vos esprits inquiets, vos cœurs corrompus et vos désirs effrénés, reprenez, puisqu'il dépend de vous, votre antique et première innocence. Allez dans les bois perdre la vue et la mémoire des crimes de vos contemporains et ne craignez pas d'avilir votre espèce dont les passions. Non. En renonçant à ces lumières, vous renoncez à ces vices. Quant aux hommes semblables à moi, dont les passions ont détruit pour toujours l'originelle simplicité, qui ne peuvent plus se nourrir d'herbes et de glands, ni se passer de loi et de chair. Ceux qui furent dans leur premier père de leçons surnaturelles, ceux qui verront dans l'intention de donner d'abord aux actions humaines une moralité qu'elles n'eussent de longtemps acquise, la raison d'un précepte indifférent par lui-même inapplicable dans tous les autres systèmes, ceux en amour qui sont convaincus que la voie divine appela tout le genre humain aux lumières et au bonheur des célestes intelligents, tout cela tâcheront, par l'exercice des vertus qu'ils s'obligent à pratiquer, en apprenant à les connaître, de mériter le prix éternel qu'ils doivent en attendre. Ils respecteront les sacrés liens, des sociétés dont ils sont les membres, ils aimeront leurs semblables et leur serviront de tout leur pouvoir, et obéiront scrupuleusement aux lois et aux hommes qui en seront les auteurs et les ministres. Ils honoreront surtout les bons et sages princes qui sauront prévenir, guérir au palier ces foules d'abus et de mots toujours prêts à nous accabler. Ils animeront le zèle de ces dignes chefs en leur montrant sans crainte et sans flatterie la grandeur de leurs tâches et la rigueur de leurs devoirs. Mais ils n'en mépriseront pas moins une constitution qui ne peut se maintenir qu'à l'aide de tant de gens respectables qu'on désire plus souvent qu'on les obtient, et de laquelle, malgré tous leurs efforts, naissent toujours plus de calamités réelles que d'avantages. Alors, juste deux commentaires rapides. Premier, c'est que Rousseau réaffirme clairement, contrairement à un philosophe américain qui est très à la mode aujourd'hui, comme Soho, T-H-O-R-E, ou comme un certain nombre d'écolos radicaux aujourd'hui, Rousseau clairement dit « on ne reviendra jamais en arrière ». Il ne prêche pas l'idée d'un retour en arrière. Pour lui, le retour en arrière est impossible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment on ne peut pas revenir en arrière pour retrouver l'essence première de l'homme et qu'il faut faire avec ce que l'homme civil, l'homme en société est. La seule indication que suggère Rousseau, c'est qu'il faut tenter, il faut faire l'exercice de la vertu, l'exercice des vertus. Il faut tenter de vivre conformément à une morale, laquelle morale est fondée sur l'homme d'avant la corruption, c'est-à-dire sur l'essence même de l'homme. Donc ça, c'était une note, je reviens au discours. L'homme sauvage, livré par la nature au seul instinct, ou plutôt dédommagé de celui qui les manque peut-être par des facultés capables d'y suppléer d'abord et de l'élever, ensuite fort au-dessus de cela, commencera donc par les fonctions purement animales, à percevoir et sentir sera son premier état, qui lui sera commun avec tous les animaux. Vouloir et ne pas vouloir, désirer et craindre seront les premières et presque les seules opérations de son âme, jusqu'à ce que les nouvelles circonstances y causent de nouveaux développements. Quoi qu'en disent les moralistes, Alors, les moralistes du temps de Rousseau, c'est tous ces auteurs qui tirent des lois morales impératives nourries en général de la religion et qui veulent imposer ces lois morales issues de la religion aux hommes. Voilà ça. Pour Rousseau, les moralistes sont anti-philosophie morale. Quoi qu'en disent les moralistes, l'entendement humain doit beaucoup aux passions, qui, d'un commun aveu, lui doivent beaucoup aussi. C'est par leur activité que la raison se perfectionne. Nous ne cherchons à connaître que parce que nous désirons de jouir. Donc Rousseau reconnaît la positivité et la dynamique des passions. Cette dialectique passion-raison. Il n'est pas possible de concevoir pourquoi celui qui n'aurait ni désir ni crainte se donnerait la peine de raisonner. Les passions, à leur tour, tirent leur origine de nos besoins et leur progrès de nos connaissances, car on ne peut désirer ou craindre les choses que sur les idées qu'on en peut avoir, ou pour la simple impulsion de la nature. Et l'homme sauvage, privé de toutes sortes de lumières, n'éprouve que les passions de cette dernière espèce. Ses désirs ne passent pas ses besoins physiques. Les seuls biens qu'ils connaissent dans l'univers sont la nourriture, une femelle et le repos. Les seuls maux qu'ils craignent sont la douleur et la faim. Je dis la douleur et non la mort, car jamais l'animal ne saura ce que c'est que mourir. Et la connaissance de la mort et de ses terreurs est une des premières acquisitions que l'homme ait faites en s'éloignant de la condition animale. C'est tellement vrai, l'animal n'a pas l'angoisse de mourir. Par contre, il peut éprouver la douleur. Voilà. Alors que l'homme anticipe, du contraire, on ne peut pas dire que l'animal est mu par... comme l'homme, par une angoisse de mort, on va dire. Bon, je suis obligé d'avancer. Mais sans recourir au témoignage d'un certain de l'histoire, qui ne voit que tout semble éloigné de l'homme, sauvage, la tentation et les moyens de cesser de l'être. Son imagination ne lui parle rien, son cœur ne lui demande rien, ses modiques besoins ne trouvent ni si aisément sous sa main, et il est si loin de degré de connaissance nécessaire pour désirer en acquérir de plus grand, qu'il ne peut avoir ni prévoyance, ni curiosité. Le spectacle de la nature lui devient indifférent à force de lui devenir familier, et c'est toujours le même ordre, ce sont toujours les mêmes révolutions. Il n'a pas l'esprit de s'étonner des plus grandes merveilles, et ce n'est pas chez lui qu'il faut chercher la philosophie dont l'homme a besoin pour savoir observer une fois ce qu'il a vu tous les jours. Son âme, que rien n'agite. C'est d'une certaine manière l'attraction de l'homme premier, de l'homme naturel. Se livre au seul sentiment de son existence actuelle, sans aucune idée de l'avenir, quelque prochain qu'il puisse être, et ses projets bornés, comme ses vues, s'étendent à peine jusqu'à la fin de la journée. Juste une remarque. On peut faire exactement le parallèle avec le sens du livre de la Genèse de la Bible. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'est l'état édénique, l'état de l'homme dans l'Éden, c'est-à-dire le paradis? C'est précisément ça. L'homme, le bonheur de l'homme d'Éden, de l'Adam premier, c'est exactement cette ataraxie de l'homme naturel. Et l'homme dans l'histoire, c'est la chute d'Éden, c'est ce que raconte. La chute de l'Éden, c'est l'homme dans l'histoire, est l'homme mu par sa liberté. Et l'histoire de manger l'arbre de la connaissance, c'est précisément ça. En fait, on peut faire établir un parallèle complet entre les deux. Il paraît d'abord que les hommes dans cet état sauvage n'ayant entre eux aucune sorte de relation morale ni de devoir connu, ne pouvaient être ni bons ni méchants, on l'avait déjà évoqué, et n'avaient ni vice ni vertu, à moins que, prenant ces mots dans un sens physique, on appelle vice dans l'individu les qualités qui peuvent nuire à sa propre conservation, et vertu celles qui peuvent y contribuer. Auquel cas il faudrait appeler le plus vertueux celui qui résisterait le moins aux simples impulsions de la nature. Mais sans nous écarter du sens ordinaire, il est à propos de suspendre le jugement que nous pourrions porter sur une telle situation et de nous défier de nos préjugés jusqu'à ce que, la balance à la main, on ait examiné ce qu'il y a plus de vertu que de vice parmi les hommes, s'il y a plus de vertu et de vice parmi les hommes civilisés, ou si leurs vertus sont plus avantageuses que leurs vices ne sont funestes, ou si le progrès de leurs connaissances est à des dédommagements suffisants des maux qu'ils se font mutuellement à mesure qu'ils s'instruisent du bien qu'ils devraient se faire, ou s'ils ne seraient pas à tout prendre dans une situation plus heureuse de n'avoir ni mal à craindre, ni bien à espérer de personne, que de s'être soumis à une dépendance universelle et de s'obliger à tout recevoir de ceux qui ne s'obligent à leur rien donner. N'allons pas conclure, surtout avec Hobbes, donc là, il dévoile son adversaire, que pour n'avoir aucune idée de la bonté, l'homme soit naturellement méchant, qu'il soit vicieux parce qu'il ne connaît pas la vertu, qu'il refuse toujours à ses semblables des services qu'il ne croit pas leur devoir, ni qu'en vertu du droit qu'il s'attribue avec raison aux choses dont il a besoin, il s'imagine follement être le seul propriétaire de tout l'univers. Hobbes a très bien vu le défaut de toutes les définitions modernes de droit naturel. Mais les conséquences qu'il tire de la sienne montrent qu'il la prend dans un sens qui n'est pas moins faux. En raisonnant sur les principes qu'il établit, cet auteur devait dire que l'état de nature étant celui où le soin de notre conservation est le moins préjudiciable à celle d'autrui, cet état était par conséquent le plus propre à la paix et le plus convenable au genre humain. Il dit précisément le contraire. Pour avoir fait entrer mal à propos dans le soin de la conservation de l'âme sauvage, le besoin de satisfaire une multitude de passions, donc ça c'est l'homme civilisé, qui sont l'ouvrage de la société et qui ont rendu les lois nécessaires. Le méchant, dit-il, est un enfant robuste. Il reste à savoir si l'homme sauvage est un enfant robuste. Quand on lui accorderait, qu'en conclurait-il? Que si, quand il est robuste, cet homme était aussi dépendant des autres que quand il est faible, il n'y a sorte d'excès auquel il ne se porte pas. Qu'il ne battit sa mère lorsqu'elle tarderait trop à lui donner la mamelle, qu'il n'étrangla un de ses jeunes frères lorsqu'il en serait incommodé, qu'il ne mordit la jambe à l'autre lorsqu'il en serait heurté ou troublé. Mais ce sont deux suppositions contradictoires dans l'état de nature que d'être obéissant et dépendant. L'homme est faible quand il est dépendant et il est émancipé avant que d'être robuste. Hobbes n'a pas vu que la même cause qui empêche les sauvages d'user de leur raison, comme le prétendent nos jurisconsultes, les théoriciens du droit, les empêche en même temps d'abuser de leurs facultés, comme il le prétend lui-même. De sorte qu'on pourrait dire que les sauvages ne sont pas méchants, précisément parce qu'ils ne savent pas ce qu'est être bon. Car ce n'est ni le développement des lumières, ni le frein de la loi, mais le calme des passions et l'ignorance des vices qui les empêchent de mal faire. Chez eux, l'ignorance des vices est plus utile que chez les autres, la connaissance de la vertu. Il y a d'ailleurs un autre principe que Hobbes n'a point aperçu, et qui a été donné à l'homme pour adoucir en certaines circonstances la férocité de son amour propre, où le désir de se conserver avant la naissance de cet amour tempère l'ardeur qu'il a pour son bien-être par une répugnance innée à voir souffrir son semblable. Ça, c'est essentiel. Les deux critiques que Rousseau fait à Hobbes, la première, on l'a vu, c'est qu'au fond, Hobbes considère comme principe premier de l'essence humaine ce qui est le produit de l'homme civilisé et pas de ce qui est l'homme naturel. L'homme est un loup pour l'homme, c'est un constat de l'homme civilisé, pas de l'homme naturel. Et la deuxième critique et déterminante que fait Rousseau à Hobbes, c'est que Hobbes n'a pas vu ce second principe de, qui constitue l'essence naturelle, l'instinct de pitié, l'amour de Dieu. Il n'a pris en compte, il n'a vu qu'un seul principe, qu'un seul instinct, l'amour de soi. Ça, c'est déterminant, c'est une critique absolument remarquable. Note de Rousseau, il ne faut pas confondre, ça c'est important, ça c'est une distinction que fait Rousseau de ses lectures de Pascal en fait. Il ne faut pas confondre l'amour propre et l'amour de soi, de soi-même. Deux passions très différentes par leur nature et leurs effets. L'amour de soi-même est un sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. L'amour propre n'est qu'un sentiment relatif, factice et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font mutuellement et qui est la véritable source de l'honneur. Ça, ça correspond à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'égocentrisme, l'hypertrophie de l'ego. L'amour propre, c'est ce produit de l'état de société qui produit cet hyper-profit de l'ego catastrophique. C'est bien entendu, alors que l'amour de soi, c'est ce premier instinct nécessaire pour assurer sa survie, sa vie. Ceci, bien entendu, je dis que dans notre état primitif, dans le véritable état de nature, l'amour propre n'existe pas. Car chaque homme en particulier, se regardant lui-même comme le seul spectateur qu'il observe, comme le seul être dans l'univers qui prenne intérêt à lui, comme le seul juge dans son propre mérite, il n'est pas possible qu'un sentiment qui prend sa source dans des comparaisons, qu'il n'ait pas à portée de fer, puisse germer dans son âme. L'amour propre, le développement de l'ego, naît de la comparaison sociale. Ça rejoint une leçon magnifique de Pierre Bourdieu, d'ailleurs. Toute la théorie chez Bourdieu de la distinction sociale, qui est un ressort qu'il a analysé magnifiquement, qu'on peut appliquer à la consommation. Pourquoi les hommes veulent tel objet de luxe? Parce que c'est dans le jeu de la comparaison sociale qu'elle permet de se distinguer des autres. On veut telle voiture parce que cette voiture va nous montrer auprès des autres qu'on est plus haut socialement que tel autre, et ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Donc, on en revient au texte. Je ne crois pas avoir aucune contradiction à craindre en accordant à l'homme la seule vertu naturelle qui ait été forcée de reconnaître le détracteur le plus outré des vertus humaines. Je parle de la pitié. Là, le mot est prononcé. Disposition convenable à des êtres aussi faibles et sujets à autant de maux que nous le sommes. Ce qu'il veut dire, c'est que la pitié n'a pas complètement disparu comme ressort de l'homme civilisé. Vertu d'autant plus universelle et d'autant plus utile à l'homme qu'elle précède en lui l'usage de toute réflexion et si naturelle que les bêtes même en donnent parfois des signes sensibles. Sans parler de la tendresse des mères pour leurs petits, et des périls qu'elles bravent pour les en garantir. On observe tous les jours la répugnance qu'ont les chevaux à fouler aux pieds un corps vivant. Un animal ne passe point sans inquiétude auprès d'un animal mort de son espèce. Parce que la pitié a à voir avec la sensibilité, elle est pré-rationnelle, pré-réflexive. Il y en a même qui leur donnent une sorte de sépulture. Donc, par rapport à l'objection que vous fournissiez tout à l'heure, les animalistes. et les tristes mugissements du bétail entrant dans une boucherie annoncent l'impression qu'il reçoit de l'horrible spectacle qui le frappe. Vous voyez, Rousseau a parfaitement vu tout cela. On voit avec plaisir l'auteur de la fable des abeilles, donc Bernard Mandeville, qui est ce philosophe, qui est un médecin hollandais, qui a un nom français, mais qui vit en Angleterre, et qui a écrit, on en avait déjà parlé, sa fameuse fable des abeilles, qui est le fondement de la société libérale capitaliste moderne. C'est Mandeville qui fonde la philosophie de l'utilitarisme. Et l'utilitarisme, c'est quoi? C'est que, pour Mandeville, l'homme, fondamentalement, est rationnel. Tous ses comportements obéissent à la rationalité de l'intérêt. En toutes circonstances, l'homme cherche à optimiser ses gains, qui ne sont pas que des gains financiers, hein, toutes sortes de gains, et à minorer les inconvénients. En termes mandevilliens, l'homme cherche toujours à optimiser ses utilités, à minorer les désutilités. Voilà. Donc on voit avec plaisir que l'auteur des Fables des abeilles, dont le titre, non je suis toujours dans la parenthèse, hein, c'est en fait la Fable des abeilles, vice privée, vertu publique. C'est-à-dire que ce qu'on pose dans le livre, c'est qu'une société devient prospère si on permet aux hommes de s'adonner à leurs vices, d'optimiser leurs intérêts. Du coup, ça serait une société prospère et tout le monde y trouvera son compte. Voilà la théorie de Mandeville, qui est précisément la théorie de l'ultralibéralisme actuel. Donc, ce que dit Rousseau, c'est que Mandeville est forcé néanmoins de reconnaître l'homme pour un être compatissant et sensible. C'est-à-dire que Mandeville ne peut pas évacuer de sa théorie cette dimension de la pitié, néanmoins. Et sortir, dans l'exemple qu'il en donne, de son style froid et critique pour nous fournir la pathétique image d'un homme enfermé qui aperçoit au dehors une bête féroce arrachant un enfant du sein de sa mère, brisant sous sa dent meurtrière ses faibles membres et déchirant de ses ongles les entrailles palpitantes de ses enfants. Quelle affreuse agitation n'éprouve point ce témoin d'un événement auquel il ne prend aucun intérêt personnel? Quelle angoisse ne souffre-t-il pas à cette vue de ne pouvoir porter aucun secours à la mère évanouie, ni à l'enfant expirant? Donc ce que dit Rousseau, c'est que même Mandeville et sa théorie utilitariste est obligé de prendre en compte aussi cette dimension de la pitié. Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion, telle est la force de la pitié naturelle, que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire, puisqu'on voit tous les jours dans nos spectacles s'attendrir et pleurer au malheur d'un infortuné, tel qui, s'il était à la place du tyran, aggraverait encore les tourments de son ennemi. Semblable au sanguinaire Sylla, si sensible aux maux qu'il n'avait pas causés, ou cet Alexandre de Fer, qui n'osait assister à la représentation d'aucune tragédie, de peur qu'on ne le fît gémir avec Andromaque et Priam, tandis qu'il écoutait sans émotion les cris des citoyens qu'on égorgeait tous les jours par ses ans. Mandeville a bien senti qu'avec toute leur morale, les hommes n'eussent jamais été que des monstres si la nature ne leur eût pas donné la pitié à l'appui de la raison. Mais il n'a pas vu que de cette seule pitié, de cette seule qualité, découlent toutes les vertus sociales qu'il veut discuter aux hommes. C'est qu'en gros, Mandeville ne prend pas en compte la pitié comme un des principes qui peut fonder la société. Il ne prend en compte que le conatus, l'instinct de soi, l'intérêt. En effet, qu'est-ce que la générosité, la clémence, l'humanité, sinon la pitié appliquée aux faibles, aux coupables ou à l'espèce humaine en général? La bienveillance et l'amitié même sont, à le bien prendre, des productions d'une pitié constante. fixé sur un objet particulier, car désirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autre chose que de désirer qu'il soit heureux ? Comme il serait vrai que la commisération ne serait qu'un sentiment qui nous met à la place de celui qui souffre. Sentiment obscur et vif dans l'homme sauvage, développé mais faible dans l'homme civil, qu'apporterait cette idée à la vérité de ce que je dis, sinon de lui donner plus de force. En effet, la commisération sera d'autant plus énergique que l'animal spectateur s'identifiera plus intimement avec l'animal souffrant. C'est-à-dire que c'est un processus d'identification qui se joue dans la pitié. C'est qu'on se met à la place de l'autre. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Or, il est évident que cette identification a dû être infiniment plus étroite dans l'état de nature que dans l'état de raisonnement. Car la raison qui engendre l'amour propre, et c'est la réflexion qui le fortifie. C'est elle qui replie l'homme sur lui-même. C'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige. C'est la philosophie qui l'isole. C'est pas elle qui dit en secret à l'aspect d'un homme souffrant, « Péris, si tu veux, je suis en sûreté. » Il n'y a plus que les dangers de la société entière, il n'y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil tranquille du philosophe et qui l'arrache de son lit. On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre. Il n'a qu'à mettre ses mains sur ses oreilles et s'argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l'identifier avec celui qu'on assiste. L'homme sauvage n'a point cet admirable talent. Il est ironique, le chef. Et faute de sagesse et de raison, on le voit toujours se livrer étourdiment au premier sentiment de l'humanité. Dans les émeutes, dans les querelles des rues, la populace s'assemble, l'homme prudent s'éloigne. C'est la canaille, ce sont les femmes, des halles qui séparent les combattants. C'est tellement vrai. Et qui empêchent les honnêtes gens de s'en égorger. Il est donc bien certain que la pitié est dans son élément naturel, qui modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, l'amour de soi-même doit être tempéré pour que la pitié se développe, concourt à la conservation mutuelle de l'espèce. C'est elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir. Et ça, c'est tellement vrai, je l'avais déjà évoqué, mais quand on assiste à une scène où quelqu'un est agressé, ce qui fait qu'on intervient ou pas, c'est la pitié qui est présente, qu'on écoute. Et la pitié, c'est tellement antérieur à la raison qu'on va intervenir sans avoir réfléchi. Si on réfléchit, on n'intervient pas. Si on fait appel à la raison, on n'intervient pas parce qu'on se dit « Oh là là, c'est dangereux, je préfère foutre le camp. » On intervient avant. C'est pour ça que ça peut être des gens sans force physique. Une fois aussi, j'avais vu une petite vieille qui se servait de son parapluie comme une canne, qui a voulu intervenir. Elle est arrivée avec son parapluie et donnait des coups de bâton à ce qui a agressé. Et alors, dans la situation auquel j'ai assisté, et c'était merveilleux, c'est que l'agresseur a été tout surpris et n'a plus osé rien faire. Il était sidéré par cette petite vieille à son parapluie qui était là. Bref. Donc, on voit bien que la pitié intervient avant la raison. C'est elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir. C'est elle qui, dans l'état de nature, tient le devoir, demeure ses deux vertus, avec cet avantage que nul n'est tenté de désobéir à sa joie. C'est elle qui détournera tout sauvage robuste d'enlever un faible enfant ou un vieillard affirme sa subsistance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs. C'est elle qui, au lieu de la maxime sublime de la justice raisonnée, Fais à autrui comme tu veux qu'on te fasse. C'est une citation de l'Évangile. Inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente. Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible. C'est en un mot, dans ce sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l'éducation. Quoi qu'il puisse appartenir à Socrate et aux esprits de sa trempe d'acquérir de la vertu par raison, il y a longtemps que le genre humain ne serait plus si sa conservation n'eût dépendu que des raisonnements de ceux qui l'aiment. Il faut convenir, d'abord, que toutes les passions sont violentes, que plus les passions sont violentes, plus les lois sont nécessaires pour les contenir. Ça va s'acheminer, ça, vers la nécessité du contrat social. Mais outre que les désordres et les crimes que ces passions causent tous les jours parmi nous montrent assez l'insuffisance des lois à cet égard, il serait encore bon d'examiner si ces désordres ne sont point nés avec les lois elles-mêmes. Car alors, quand elles seraient capables de le réprimer, ce serait bien le moins qu'on en dût exiger que d'arrêter un mal qui n'existerait point sans elle. En fait, ce que pointe Rousseau, c'est l'insuffisance néanmoins des lois qui sont nécessaires face aux passions destructives, et lesquelles passions se trouvent en retour causées par les lois elles-mêmes, c'est-à-dire par la société organisée. Je vais peut-être sauter quelques pages parce qu'on ne va pas s'en sortir. Parce que je voudrais quand même pouvoir avoir un peu de temps de lire du journal. Donc, ce qu'il développe par la suite, ça n'apporte rien de plus. En fait, les différences et les inégalités entre les hommes vont se développer avec la société et justement cette faculté de la perfectibilité, si vous voulez. C'est le sens du paragraphe suivant. Et alors, page 228 au milieu de la page 8, là, hein, vous avez la phrase qui est ultra célèbre. Le premier qui ira en clos à terrasse un visage de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Mais ce que dit Rousseau, c'est que cette idée de propriété n'est pas le point de départ. C'est que cette idée de propriété dépend de beaucoup d'idées antérieures qui n'ont pu naître que successivement et ne forma pas tout d'un coup et ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Il fallut bien des progrès acquérir bien de l'industrie des lumières, les transmettre et les augmenter d'un journal avant que d'arriver à ce dernier terme de l'état de nature. Le premier sentiment de l'homme fut celui de son existence, son premier soin celui de la conservation, d'accord. À mesure que les idées et les sentiments se succèdent, que l'esprit et le cœur s'exercent, le genre humain continue à s'apprivoiser, les liaisons s'étendent et les liens se resserrent. C'est la construction d'un peu d'un lien social d'une société. On s'accoutuma à s'assembler devant les cabanes autour d'un grand arbre, donc il y a les rituels sociaux qui s'introduisent. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même. Donc c'est commence à s'instaurer la comparaison sociale, le jeu des miroirs et masques qui va permettre l'amour propre. Et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, voulait être regardé. Le plus fort, le plus adroit ou le plus élégant devient le plus considéré. Et ce fut le premier pas vers l'inégalité. C'est-à-dire que pour Rousseau, le fondement de l'inégalité, c'est véritablement ce jeu social qui va s'instaurer peu à peu en vivant ensemble, qui est un jeu de comparaison sociale où chacun cherche à être reconnu comme meilleur par les autres, sous le regard des autres. Et c'est toute la sociologie contemporaine inspirée de ça, de l'interactionnisme symbolique qui se trouve là, que Rousseau pense en premier. L'interactionnisme, c'est ça, c'est que ce qui construit la société, c'est ce jeu des face à face. On est face à face, et dans le jeu des regards, chacun va identifier l'autre, va se construire une image de l'autre. Et celui qui est l'objet de cette image par le premier va chercher à donner de lui une image plus conforme encore à ce qu'attend l'autre de lui. C'est tout ce jeu social qui est une sorte de théâtre social où se joue tout ce jeu de comparaison sociale qui éloigne l'homme peu à peu de son essence première et qui fait que l'homme va se corrompre et va introduire activement les inégalités sociales. Et la propriété va naître, qui va accélérer l'inégalité sociale entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont propriétaires de beaucoup de biens et les autres. La propriété va venir sur ce terrain-là, qui va être l'accélérateur des inégalités sociales, mais qui préexiste, dit Rousseau, par ce jeu de la comparaison sociale. D'accord ? Chacun commença à regarder les autres, à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique est un prix. Et ce fut là le premier pas vers l'inégalité, et vers le vice en même temps. De cette première préférence naquirent d'un côté la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie. Et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisait enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence. Sitôt que les hommes eurent commencé à s'apprécier mutuellement et que l'idée de la considération fut formée dans leur esprit, chacun prétendit y avoir droit et il ne fut plus possible d'en manquer impunément pour personne. Je continue rapidement. Et donc il explique que la conséquence de cela, c'est que le mal résulte de l'injure de l'offensé. L'offensé voyait le mépris de sa personne. Les vengeances devinrent terribles, chacun veut se venger du mal qu'on fait à sa personne, et la pitié naturelle, peu à peu, est amoindrie par tout le monde. Et tout cela est le terreau où l'amour propre intéressé va se développer. D'accord ? Et donc la raison est rendue active. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, dans l'amour propre, c'est l'intérêt rationnel, la rationalité de l'intérêt, qui va prédominer et dicter les comportements des hommes. Les conséquences de ça. Il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu'on était en fait. C'est la naissance de l'aliénation au sens fort du terme. Et là, Rousseau préfigure Marx par ce point de vue-là, au sens où Marx. Toute sa théorie est basée sur l'aliénation. C'est-à-dire que où l'on est dans un jeu social, alors Marx le situe sur le plan de l'économie stricte, où on est dans un jeu social, où on est conduit à n'être pas soi-même, à être autre et se montrer autre que soi-même. Hein. Il fallut bientôt les avoir ou les affecter. Il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu'on était en effet. Être et paraître devient. Être et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes. Et de cette distinction sortirent le face imposant, la ruse trompeuse et tous les vices qui en sont le cortège. D'un autre côté, le libre indépendant qui était auparavant l'homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins, assujetti pour ainsi dire à toute la nature et surtout à ses semblables. Il devient l'esclave en essence, même en devenant le maître. C'est une analyse magnifique de ce qu'est l'aliénation. Et c'est Maurice Clavel qui avait écrit ce livre qui est aliéné, qui est un livre très rare, qui est passionnant à lire, où Clavel montre que l'aliénation dans notre monde moderne, et c'est le problème, c'est qu'avec ce jeu social, c'est partagé par tout le monde. Et que, d'une certaine manière, les plus riches sont les plus aliénés. d'une certaine manière. Maurice Clavel et le livre « Qui est aliéné ?» C'est apparu dans la collection Champflammarion, je ne sais pas s'il n'est pas épuisé. Il faut chercher ça chez les bouquinistes. Je ne sais pas, il n'est peut-être pas épuisé. Mais... Champ. C'est les petits livres de couverture orange-jaune. Enfin, je continue un peu rapidement, mais il déploie toutes les conséquences. L'ambition des ventes, l'ardeur d'élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire mutuellement, une jalousie secrète d'autant plus dangereuse que pour faire son coup en plus en sûreté, elle prend souvent le masque de la bienveillance. On retrouve aussi Pascal, hein. Souvenez-vous de son passage qu'on avait lu sur le prince. En un mot, concurrence et rivalité d'une part, de l'autre, opposition d'intérêt, et toujours le désir caché de faire son profit aux dépens d'autrui. C'est ainsi que les plus puissants et les plus misérables, se faisant de leur force ou de leur besoin, ils sortent de droit au bien d'autrui, équivalent l'un selon eux à celui de la propriété. L'égalité fut rompue, fut suivie du plus affreux désordre. C'est ainsi que les usurpations de riches, les brigandages de pauvres, les passions effrénées de tous, étouffant la pitié naturelle et la voie encore faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux et méchants. Bon, ensuite, c'est toujours les mêmes des vieux. Et au bout du compte, ce que dit Rousseau, c'est que c'est la fin de la liberté de l'homme, c'est-à-dire que cette aliénation partagée par tous, où chacun veut apparaître autre qu'il n'est, cette aliénation aboutit à la fin de la liberté. C'est-à-dire que l'homme qui est libre n'est plus libre à partir de là. Un tel fut ou dû, page 10, être l'origine de la société des lois qui donnèrent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, d'une adroite usurpation, firent un droit irrévocable. Perdant de société à société, presque tous les hommes à peu plus bas, toutes les forces qu'elle avait d'homme à homme ne résident plus que dans quelques grandes âmes cosmopolites qui franchirent les barrières imaginaires qui séparent les peuples et qui, à l'exemple de l'être souverain qui les a créés, embrassent tout le genre humain dans leur bienveillance. Ce que dit Rousseau, c'est que tout ça, cette rivalité, cette guerre entre les individus, s'étend aussi aux agrégats d'individus, c'est une guerre entre les sociétés qui se joue là. Et ce que dit Rousseau, c'est qu'au fond, il y a quelques grandes âmes cosmopolites. Et là, on ne peut pas ne pas penser deux siècles plus tard à quelqu'un comme Stéphane Zweig, par exemple, qui développe cet esprit cosmopolite, qui a fait fi des frontières et des séparations et des rivalités entre les peuples. Et ce que dit Rousseau, il n'y a que quelques grandes âmes cosmopolites qui franchissent les frontières imaginaires qui séparent les peuples, qui peuvent encore cultiver la sainte de pitié, et voilà, c'est... Bon, si vous voulez, ce qui se développe ensuite n'apporte rien de plus que l'essentiel de ce que je vous ai dit. Pour terminer, j'aborde rapidement Giono, Solitude de la pitié. Deux petites nouvelles. Donc, la première, qui est la dernière, s'appelle « La grande barrière ». Je viens de voir... Alors, c'est des nouvelles qui se passent dans le milieu de Giono, c'est-à-dire le milieu rural de la Provence, et notamment de la Drôme provençale. Je viens de voir un des drames de la Terre. J'ai fait les gestes qu'il fallait. Entendons-nous, pas n'importe lesquels, pas ceux que quelqu'un ne sait pas. Des gestes que j'ai appris lentement, avec tout le temps de mon cœur. Des gestes qui sont venus dans mes nerfs et mes nuits, petit à petit, à gouttes, pourrait-on dire, bien appris, bien dans mon sang, des gestes exacts. C'étaient de pauvres gestes d'homme. Je ne le croyais pas. Je l'ai su parce que, malgré eux, j'ai été arrêté par la grande barrière. Depuis, je me dis pourtant toi. Et oui, même moi. Donc ces gestes et l'apprentissage de la pitié qu'il va expérimenter dans une situation précise, vous allez voir, ça s'éclaire après. Il faisait une belle nuit, Un de ces énervements d'avril, de grands gestes de vent, puis des cinglés d'eau froide comme les mille lanières d'un fouet, un ciel bas en voir tous les gonflements de muscles. Mais, vers le soir, je mets ma pèlerine, je prends mon béret et je sors. Dans cette chambre, pleine de fumée de pipe, je commençais à avoir des hallucinations de fond de mer. Deux gifles de vent me remettent d'aplomb. Je vois le temps tel qu'il est et je me dis, tu peux monter à la colline, et j'y monte. C'est cette colline qui est là, ronde et belle et lisse comme un sein. Elle a un nom, colline d'or, colline du vent. C'est vous dire que je ne choisissais pas l'abri. Vers le sommet, le vent et la pluie s'enrageaient en tourbillon que vous voyez se nouer dans les arbres. Un air noir coulait avec une colère de torrent. Un informe tonnerre râlait par là-haut, dedans comme un crapaud. Les oliviers étaient dans une belle souffrance. Et cependant, l'olivier est une plante dure. Ça en a vu des peines et des chagrins. Ça a fait le compte de tout. Il y eut un moment de calme. Un vaste jour blanc descendit sur la campagne, comme un filet de pêcheurs, dans le ciel soudain sec de pluie, mais encore frissonnant, un gisement saccadé flotta. Cela me fit l'effet d'un coup de poing en plein visage. Je m'arrêtais, je regardais. Je regardais surtout en direction d'une herbe haute d'où il me semblait que la plainte venait. Deux grands corbeaux montèrent de l'herbe. Je les reconnus. C'étaient ces vieux sauvages des plateaux, ces vieux durs qu'ont chassé le rat ou la marmotte pendant l'hiver et qui coulent dans le printemps vers nos collines plus douces, vers des proies plus savoureuses. Ils s'étaient haussés de l'herbe, d'un simple coup d'épaule, juste assez pour se poser dans l'olivier. Le gémissement reprit. Les corbeaux me regardaient. Ils se mirent à craquer tous les deux comme des branches qui se cassent. C'était un avertissement. Alors de l'herbe monta un freux, un gros freux, rappelé de vol mou qui s'empêtra dans une liane de vent, trébucha des deux ailes et tomba comme une épave dans le vide du volant. Il n'y avait pas à se tromper. C'était une bête repue. La plainte encore. Je chassais les corbeaux à coups de pierre. Je m'approchais de l'air. On ne se plaignait plus. Je cherchais. Il y eut un petit tressaillement du fourré qui me guida. C'était une hase. Une hase, c'est une femelle du lièvre. Une magnifique bête, toute dolente et toute éperdue. Elle venait d'avoir ses petits tout neufs. C'étaient deux éponges sanglantes, crevées de coups de bec et déchirée par le croc du freux. La pauvre, elle était couchée sur le flanc. Elle aussi blessée et déchirée dans sa chair vive. La douleur était visible comme une grande chose vivante. Elle était cramponnée dans cette large plaie du ventre et on la voyait bouger là-dedans comme une bête qui se vautre dans la boue. La hase ne gémissait plus. À genoux à côté d'elle, je caressais doucement les plaies pelages brûlant de fièvre, et surtout là, sur l'épine du cou, la caresse est plus douce. Il n'y avait qu'à donner de la pitié. C'était la seule chose à faire. De la pitié, tout un plein cœur de pitié, pour adoucir, pour dire à la bête, « Non, tu vois, quelqu'un souffre de ta souffrance. » Tu n'es pas seul. Je ne peux pas te guérir, mais je peux encore te garder. Je caressais. La bête ne se plaignait plus. Et alors, en regardant la hâte dans les yeux, j'ai vu qu'elle ne se plaignait plus parce que j'étais pour elle encore plus terrible que les corbeaux. Ce n'était pas apaisement ce que j'avais apporté, là, près de cette agonie, mais terreur si grande qu'il était désormais inutile de se plaindre, inutile d'appeler à l'aide. Il n'y avait plus qu'à mourir. J'étais l'homme et j'avais tué tout espoir. La bête mourait de peur sous ma pitié incomprise. Ma main qui caressait était plus cruelle que le bec du freux. Une grande barrière nous séparait. Oui, en commençant, j'ai dit, et pourtant moi, ce n'est pas de la fatuité ou de la surprise, c'est de la naïveté. Moi qui sais parler la langue des mésanges, et les voilà dans les escaliers des branches, jusque sur la terre, jusqu'à mes pieds, moi que les lagres muses approchent jusqu'à m'avoir peint à l'envers sur les globes d'or. L'âgre muse, c'est un terme provençal qui est rare, c'est un lézard des murailles. Hein. Moi que les renards regardent, et puis d'un coup, ils savent qui je suis, ils passent doucement. Moi qui ne sais pas lever les perdreaux, mais ils picorent sans lever le bec. Moi qui suis une bête d'entre elles toutes, par le grand foie de collines, de genévriers, de tuiles, de thym, d'air sauvage, d'herbe, de ciel et de vent, de pluie que j'ai en moi. Moi qui ai plus de pitié pour elle que pour les hommes, s'il en est un pour qui la grande barrière devait tomber, ça aurait été moi. Non, elle est là. Il en a fallu de nos méchancetés entassées pendant des siècles pour la rendre aussi solide. Magnifique nouvelle. Alors, il y en a une autre même, je ne vais pas vous la lire entière. Ben on a 5 minutes. Qui est la première, qui est magnifique aussi, et là, c'est entre les hommes. C'est une scène humaine, et s'attitude, c'est le titre éponyme du livre, Solitude de la pitié. C'est un titre magnifique, Solitude de la pitié. Alors, je ne vais pas l'aller en entier. Ils étaient assis contre le portillon de la guerre, de la gare. Ils ne savaient pas quelle partie prendre, regardant la patache. La patache, c'est une diligence tirée par un cheval qui est rudimentaire. Puis la route huilée. Enfin, il s'agit de deux hommes qui sont on dirait aujourd'hui des espèces de clochards ou d'errants. Et donc, ils sont à la gare, ils ne savent pas où ils vont aller, ils voient cette diligence qui est une sorte de taxi, si vous voulez. L'après-midi d'hiver était là, dans la boue blanche et plate, comme un linge tombé de l'étendoir. Le plus gros des deux se dressa. Il fouilla des deux côtés dans sa grande houssarde de velours, puis il cura du bout des doigts la petite poche de charpentier. Le postillon grimpait sur le siège. Il faisait déjà claquer la langue, et les chevaux dressaient l'oreille. L'homme cria « Attendez !» Puis il dit à son compagnon « Viens !» Et celui-ci, enfin, il flottait tout maigre dans une espèce houppelante de berger à bout d'usage. Le cou sortait de la bure, décharné comme une tresse de fer. Vous voyez les deux hommes, il y en a un qui reste costaud, fort, et l'autre qui est presque mourant. C'est pour où ?» demanda le gros. « Pour la ville, c'est combien ?»« 10 sous. »« Monte, » dit le gros. Donc il n'abandonne pas son compagnon. Hein. Il se baissa, écarta les pans de la houppelande, haussa la jambe et de l'autre son maintenant. « Monte, » il lui dit. « Fais effort, vieux. » Il fallait laisser le temps à la demoiselle de ramasser ses cartons et de se pousser. Elle avait, il y avait une autre voyageuse, César, dans la diligence. Elle avait un bon nez tout blanc à grosses lignes et elle savait qu'on voyait son nez sous la poudre de riz. Alors elle regardait toujours un peu de côté comme d'un air méchant. Et c'est pour ça que le gros lui dit « Pardon, mademoiselle. » Il y avait en face une madame potelée, douillette, dans un manteau avec de la fourrure au col et au manche. Un comique voyageur qui se serrait contre la madame et pour mieux la toucher au bas de ses seins avec son coude, il mit son pouce dans leur tournure. J'ai une scène. Appuie-toi là, dit le gros en haussant l'épaule. Et l'autre pencha sa tête et la posa. Il avait de beaux yeux bleus, immobiles, comme de l'eau morte. Donc ils avancent et ils atterrissent devant une maison d'un curé qui vit avec sa bonne. Et donc le curé a quand même de l'argent. Et donc il frappe à la porte du curé. Monsieur le curé se leva et à petits coups de poing sur ses souliers poussa l'ordure jusqu'à là. Donc ils ont chaud, hein. Ils ont un cheminé, il fait du feu, il y a de la nourriture. Marc, on a sonné. Quoi, demanda Marc en poussant la porte de la cuisine. On a sonné, je dis. C'est pas le curé qui va faire preuve de pitié. Sur la servante, la main suisselle du tablier départageait les grosses femelles et le ventre. Encore, vous aussi, monsieur, vous pourriez un peu aller voir. Toujours monter, descendre moi avec mes jambes en enfisette, vous en verrez la fin à la fin. On sonna encore une fois. Allez un peu voir, vous, c'est si peu de choses, vous le réglerez en bas. Avec ce temps, ceux qui montent me salissent partout. Elle avait la figure toute mouillée de graisse. C'est en plaçant les barres de lard, elle dit. Le garde-manger est trop haut. Une a glissé et je l'ai retenue avec la joue. Voilà, cria le curé dans le couloir. Puis il tira les verrous, ouvrit la porte. Bouge. Bonjour, monsieur, dit le gros. Le maître aux yeux bleus était là, derrière, à grelotter dans sa houppelande. On ne peut pas donner de le curé en les voyant. Le gros retira son chapeau, le maître porta la main en l'air, le regard planté dans le curé. Vous n'auriez pas quelque petit travail, dit le gros. Un travail ? Et le curé avait l'air de réfléchir, mais en même temps, il poussait doucement la porte pour la fermer. Un travail ? Il ouvrit la porte en plein. Entrez ! Le gros qui avait remis son chapeau l'enleva, encore à la précipité. Merci bien, monsieur curé, merci bien. Et il racla ses souliers au racloir. Il entra en courant un peu l'échine, malgré la haute imposte de la porte. L'autre ne dit rien, il entra tout haut et les pieds sales. Il suivait les gestes du curé avec le froid triste de ses yeux bleus. Alors, le curé leur propose un boulot. Ils voient l'opportunité et il y a une négociation. Tu vois, ça va aller 20 sous pour qu'on a dépensé. Donc, le travail va consister à réparer la pompe du puits. Il y a, une pièce de la pompe dans le puits qui est défaite et il faut pouvoir la remettre en place. Et donc, celui qui est le plus fort va descendre dans le puits et va, c'est assez horrible, quoi, il va essayer de bricoler au fond du puits, il va réussir à faire le boulot. Et pendant ce temps-là, le curé a son prof de musique qui lui apprend à jouer de l'harmonium, etc., bien au chaud, etc. Et puis, pour finir, donc, il répare, il remonte. Le gros marcha dans l'ombre. Il revient à la maison. On entendait ses pieds boueux claquer sur les dalles froides. Tu es là ? Elle demanda à son compagnon. Oui, donne-moi mes pantalons, c'est fini. Fais pas chaud, dit-il encore une fois vêtu. La maison était toute silencieuse, sauf le grésillement d'une friture qui coulait du premier. Il appela. Monsieur le curé ! La friture empêchait. Il cria « Monsieur le curé !»« Quoi ?» demanda Marc. « C'est fait, » dit l'homme. « Quoi ?» demanda encore Marc. « La pompe. »« Ah bon, je vais voir. » Elle rentra dans la cuisine et essaya de donner un coup de pompe à l'évier. L'eau coula. Monsieur le curé lisait près du poêle dans le grésillement de la friture. Ça coulait, lui. Il leva à peine les yeux. Bon, ben, va les payer. Combien je donne? Ça a été vite fait, sans doute. Et tirez bien la porte. Ils partent. Mais elle les accompagna, la regarda sortir, puis enclencha durement le loquet, poussa le verrou, mit la barre. Il tombait une pluie tenace et froide. Sous le réverbère, l'homme ouvrit la main. C'était 10 sous, et pas les 20. Les yeux bleus regardaient la petite pièce, et la main toute mâchurée des égratignures est debout. Le fort s'est blessé. Tu te fatigueras, dit-il. Je te suis une chaîne, moi, malade. Tu te fatigueras, laisse-moi. Et l'autre dit, non, dit le gros, viens. Voilà. C'est magnifique, quoi. Et voilà la vérité. Je crois qu'à la lumière de ça, il faut se dire que Rousseau a trouvé quelque chose de génial. Ce qui est dommage, c'est que dans ce, il n'est pas allé au bout de cela pour un tas de raisons. Il n'a pas pu aller au bout. Et que dans son contrat social, qui fonde une société qu'il veut juste et égalitaire, Rousseau va oublier la pitié. Ne va pas réussir à utiliser le ressort de la pitié véritablement pour fonder dans le contrat social sa société. Il va au fond n'utiliser que le principe de la liberté et le principe de l'amour
de soi.
Parce qu'il n'a pas pu penser jusqu'au bout la pitié. Il n'est pas allé jusqu'au bout de ce que ça pouvait dire dans une société où la pitié est anticipée. C'est l'ennemi qui pensait à un temps donné. Voilà.